Le livre de Daniel, je vous l'avais déjà dit, je le répète aujourd'hui, a été écrit pour encourager les Israélites dans leur exil à Babylone. En Ésaïe 48, verset 10, Dieu dit, décrivant ainsi la situation de son peuple Israël en exil, Je t'ai mis au creuset, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. L'exil à Babylone était comparable à une fournaise d'adversité, et pour cause, les voilà, après des siècles, après avoir vécu des siècles dans une société où tout le monde croyait dans le Dieu de la Bible, et où les institutions culturelles, le gouvernement, les médias, l'éducation, partageaient leurs valeurs, les voilà maintenant à Babylone. Les voilà dans une culture païenne et pluraliste qui ne partage pas leurs valeurs. Les voilà dans une société où être croyant n'est plus la norme, mais cause d'incompréhension, de moquerie, voire de persécution. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une fournaise d'adversité. Voilà comment Dieu décrit leur situation. Et curieusement, notre situation aujourd'hui en France n'est pas si éloignée de la leur. La France n'est plus un pays chrétien, si elle ne l'a jamais été, et les valeurs de notre culture sont de plus en plus éloignées, voire opposées aux valeurs chrétiennes. Il y a quelques semaines, je vous avais lu ces mots de Rod Dreher dans son livre Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, je cite, La culture ambiante est profondément déchristianisée. Dire qu'on est chrétien dans l'espace public devient disqualifiant. Cela va arriver de plus en plus. Comme c'est déjà le cas, en fait, pour des milliers de nos frères et sœurs à travers le monde, persécutés pour leur foi. Comment faire face? Comment rester fidèle à Dieu dans une culture qui le rejette? Que devons-nous savoir pour vivre notre foi courageusement en milieu hostile? La réponse du texte que nous avons sous les yeux est la suivante. Notre Dieu est capable de délivrer ses fidèles de la fournaise de l'adversité. Voilà la vérité centrale de ce texte destiné à nous encourager aujourd'hui. Notre Dieu est avec nous et il saura nous délivrer lorsque nous serons sous le feu de la critique ou des moqueries. Ne perdons donc pas courage. Lisons ensemble Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Et le héraut cria avec force: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, Il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache ô roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. À cause de l'ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Certainement, au roi !» Il reprit et dit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà, jusqu'ici cette lecture. Comme on avait pu le voir déjà dans les 2 premiers chapitres, l'auteur du livre de Daniel est un écrivain hors pair, un conteur né. Et avec toute l'ironie dont un grand écrivain sait faire preuve, il a placé le point principal du passage dans la bouche de Nebuchadnezzar. Au verset 15, regardez, Nebuchadnezzar demande aux 3 amis de Daniel « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et ironiquement, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui donne la réponse à cette question au verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple qui l'appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Notre Dieu est capable de délivrer ses fidèles de la fournaise de l'adversité. S'il y a un point à retenir, c'est celui-là. Maintenant, j'aimerais creuser ce point central en considérant trois choses ce matin. La pression du pluralisme, la précision de la foi et la protection du Seigneur. Voilà les trois points. Premièrement, la pression du pluralisme, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées et il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Maintenant, dans la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante, il est précisé ici que cet épisode s'est produit la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. Or, au chapitre 2, verset 1, nous étions la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Plus de 15 ans se sont écoulés, donc, entre la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3. D'où la question, pourquoi ces deux chapitres se suivent-ils ? Quelle est l'intention de l'auteur en rapprochant ces deux histoires qui ont eu lieu à plus de 15 ans d'intervalle ? Pourquoi ? Eh bien, réfléchissez. Que s'est-il passé au chapitre 2 ? Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve, rappelez-vous, d'une grande statue dont seule la tête, qui représente Nebuchadnezzar, seule la tête était en or. Le corps était d'argent, de bronze, de fer, d'argile, et représentait les royaumes qui lui succéderaient. Mais d'une montagne, en surplomb, s'était détachée une pierre, sans l'intervention d'aucune main humaine, qui est venue frapper la statue, et la statue a été pulvérisée. Voilà le rêve. Et personne ne peut lui expliquer ce qu'il signifie. Personne, sauf Daniel. Daniel explique à Nebuchadnezzar qu'un jour, le royaume de Dieu viendra pulvériser les royaumes des hommes et que ce royaume durera éternellement. Car, comme Daniel confesse au chapitre 2, verset 21, regardez, c'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui, littéralement, dresse les rois. C'est lui qui renverse et qui dresse les rois. Maintenant, relisez le chapitre 3, verset 1, encore une fois. Le roi Nebuchadnezzar, nous est-il dit ici, fit une statue d'or, toute couverte d'or, pas que la tête, toute couverte d'or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres, et il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Et ce verbe dresser revient presque à chaque verset. Verset 2, il nous est dit qu'ils se rendirent tous à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Verset 3, ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Il la dressa, etc. Comment peut-on lire ces versets sans voir que Nebuchadnezzar essaye de contrer le rêve du chapitre 2, de répliquer en s'élevant contre Dieu avec arrogance, en dressant une statue tout en or, comme pour dire « C'est mon royaume à moi, Nebuchadnezzar, qui durera éternellement. Mon règne n'aura pas de fin. » C'est d'autant plus flagrant quand on voit à quel endroit Nebuchadnezzar dresse-t-il la statue. Il est dit que c'est dans la vallée de Doura, dans la province de, littéralement, de Babel. Dans la province de Babel. En parlant de l'épisode de Babel en Genèse 11, quand, rappelez-vous, les peuples, nations et hommes de toutes langues se sont dressés pour construire une tour gigantesque qui touche le ciel, un commentateur écrit, je cite, ils tentaient de construire une culture qui leur donnerait une sorte d'immortalité. Par leur propre ingéniosité, ils espéraient transcender cette frontière divinement ordonnée. Et n'est-ce pas, vous voyez, exactement la même chose que Nebuchadnezzar cherche à faire ici. Se donner une sorte d'immortalité avec cette tour, cette statue tout en or, comme pour dire c'est mon royaume, à moi. Il n'y aura pas de royaume après le mien. C'est mon royaume à moi, Nebuchadnezzar, qui va durer. Que fait-il donc ? D'abord, verset 2, il envoie des cartons d'invitation dans tout l'Empire pour convoquer les politiques, les influenceurs, les stars des médias. Il n'y a que du beau monde, regardez. le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats et les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue. Ensuite, verset 4, il prépare un spectacle de son et lumière à couper le souffle, de la musique, des feux d'artifice. Et quand la fête est bien lancée, le héros cria avec force « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte et de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte et de tous les instruments, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Est-ce que vous ressentez la pression? Quelle personne saine d'esprit oserait se démarquer de la foule? Eh bien, la pression est la même aujourd'hui, je crois. Ce que Nebuchadnezzar exige est en fait très simple. « Je ne vous demande pas, dit-il en réalité, je ne vous demande pas d'adorer mes dieux à la place du vôtre, mais mes dieux en plus du vôtre. » Vous voyez, tous ces gens dans la foule venaient des quatre coins de l'Empire. Ils avaient tous leur propre dieu. Et Nebuchadnezzar dit en fait, « Pas de problème, vous pouvez adorer le dieu de votre choix tant que vous vous prosternez aussi devant les idoles culturelles, les normes et les valeurs de Babylone. » En privé, tu peux adorer le Dieu de la Bible si ça te fait du bien, adore le Dieu de la Bible, pas de problème. Mais en public, tu dois être comme tout le monde. En somme, vous deviez privatiser votre foi. C'est ça la pression du pluralisme. En privé, tu peux croire en Dieu, tu peux pratiquer ta foi comme tu le veux, mais ne t'avise surtout pas d'amener ta foi dans la sphère publique. En public, tu dois être comme tout le monde. Il faut se conformer. Dans certains pays aujourd'hui encore, il faut se conformer ou mourir. Ou mourir, comme les trois amis ici. Saviez-vous que la pandémie de Covid-19 a aggravé les persécutions des chrétiens en 2020? C'est surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que montre l'index mondial de l'ONG Porte Ouverte. Je cite, « Dans certains pays comme le Niger, la Colombie ou la Turquie, des chrétiens ont été accusés en 2020 par des leaders religieux d'être à l'origine de la pandémie. Dans le golfe Persique, des infirmières chrétiennes ont été affectées aux soins des malades du Covid-19, le plus souvent sans masque. Des chrétiens ont par ailleurs été exclus de l'aide d'urgence dans de nombreux pays, comme le Myanmar, le Bangladesh ou l'Inde. Sans parler des groupes terroristes au Sahel qui profitent du chaos ambiant pour attaquer les églises en toute impunité. 4761 chrétiens ont été tués pour leur foi en 2020. Vous voyez, la fournaise continue de brûler aujourd'hui dans le monde pour ceux qui refusent de privatiser leur foi. Maintenant, dans notre pays, la situation n'est bien sûr pas la même, mais elle n'est pas si différente qu'elle ne paraît. Je vous donne deux exemples pour illustrer. Pensez d'abord au monde de l'entreprise. Si vous êtes chrétien aujourd'hui en France et que vous travaillez dans le monde des affaires ou dans le monde de l'industrie et que toutes les personnes autour de vous sont impitoyables et limite illégales dans leurs pratiques commerciales, ça met une énorme pression sur vous parce que ce sont vos collègues ou vos concurrents. Et si vous ne faites pas comme eux, comment allez-vous garder votre place ou comment allez-vous garder le respect de vos supérieurs? Si vous êtes chrétien et que vous décidez « Je vais devoir être aussi impitoyable et limite illégal que tout le monde. » Alors, vous avez succombé à la pression, vous adorez la statue. Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes peut-être chrétien en privé, mais quand on parle, si vous voulez, de la façon dont vous vivez votre vie dans le monde, vous êtes comme tout le monde. Et à l'inverse, si vous décidez « Non, je veux être honnête dans ma pratique commerciale, je veux être aimable, conciliant dans mes pratiques. » Que va-t-il se passer si vous vous démarquez ainsi? Très vite, les gens risquent de vous jeter dans la fournaise ardente de leur mépris, de la critique ou de la moquerie. Autre exemple, pensez au mensonge de la publicité. En France, aujourd'hui, il n'y a pas d'image ou de statue en or devant laquelle nous prosterner. Mais il y a des images à tous les coins de rue qui nous disent « Voilà comment vous devriez dépenser votre argent. Voilà ce qu'il vous faut pour être quelqu'un. Il vous faut cette grosse voiture. Il vous faut cette belle silhouette. » Et ça met une énorme pression sur vous. Parce que les gens autour de vous, vos amis ou vos voisins, définissent le succès, la réussite de votre vie, selon ces critères essentiellement. Et si, en tant que chrétien, vous décidez que mon apparence, mais bien mon compte en banque ne disent rien de moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi, c'est ça qui définit la réussite de ma vie, et que, en conséquence, vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, que va-t-il se passer? Il y a de fortes chances que les gens vous regardent bizarrement, vous regardent de travers, et très vite vous jettent dans la fournaise ardente de leur mépris, du rejet, de l'exclusion. La persécution n'est pas la même dans tous les pays, mais la pression est la même hier comme aujourd'hui. Tu peux croire en Dieu, en privé pratique ta foi comme tu veux, mais en public tu dois être comme tout le monde. Est-ce que vous ressentez cette pression de privatiser votre foi dans un domaine ou l'autre de votre vie? J'ose espérer que oui. Si vous ne savez pas combien cette pression peut parfois être grande, c'est probablement que vous y avez déjà succombé. En réalité. Voilà pour ce premier point. Deuxièmement, voyons la précision de la foi. Face à la pression du pluralisme, voyons la précision d'une vraie foi. Verset 8. À cette occasion, nous est-il dit, et dans le même temps, alors que toute la foule se prosterne devant la statue, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Vous vous rappelez peut-être que les Chaldéens sont ces hauts fonctionnaires que Nebuchadnezzar avait sans doute blessés dans leur orgueil en plaçant Shadrach, Meshach et Abednego au-dessus d'eux comme administrateurs de la province de Babylone et en établissant Daniel comme leur chef suprême à la cour du roi. La vengeance étant un plat qui se mange froid, ces Chaldéens ont nourri du ressentiment à l'égard des quatre amis pendant plus de 15 ans sans doute, quand enfin, ils ont l'occasion rêvée de se venger. Verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis à jamais !» Ils savent très bien comment flatter le roi, n'est-ce pas? Or, comme le dit un proverbe, « Bouche de miel, cœur de fiel !» Ils s'adressent de façon mielleuse à Nebuchadnezzar pour lui rappeler l'ordre qu'il a donné, et puis ils crachent leur venin. Verset 12. « Il y a des Juifs, disent-ils, à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. » Avez-vous remarqué, je fais juste une petite parenthèse ici, mais avez-vous remarqué combien sont-ils à ne pas s'être prosternés devant la statue? 3. Seulement 3 parmi une foule innombrable. Et c'est un rappel, vous voyez, que tenir ferme dans le Seigneur, se démarquer dans le monde, est souvent une démarche solitaire. Il y a des moments dans la vie d'un chrétien où, pour faire ce qui est juste, nous ne pouvons pas nous cacher dans la foule, nous devons nous tenir plus ou moins seuls, en réalité. Fin de la parenthèse. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ses hommes furent amenés devant le roi. Je me demande s'il y avait davantage de fumée s'élevant au-dessus de la fournaise ardente ou au-dessus du crâne de Nebuchadnezzar. À ce moment-là, il fulmine, okay, il bouillonne de rage. Comment ont-ils pu braver mes ordres? Nebuchadnezzar n'en croit pas ses oreilles. Et c'est pourquoi il donne en fait une deuxième chance aux trois amis, verset 15. Maintenant, leur dit-il, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte et de tous les instruments, vous vous prosternerez cette fois et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Maintenant, écoutez la réponse des trois amis et voyez la précision de leur foi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons rien, pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Il y a deux remarques que j'aimerais faire sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il reste courtois, d'abord. Vous avez remarqué, il ne manque ni de courtoisie, ni de respect envers le roi. Alors, contrairement aux Chaldéens, il ne flatte pas le roi. En fait, il refuse carrément de s'excuser. « Nous n'avons rien à te répondre là-dessus », disent-ils. Le croyant n'a pas à s'excuser d'obéir à Dieu. Néanmoins, il reste poli et courtois. Ce qui fait écho à un passage du Nouveau Testament qui dit « Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. » 1 Pierre 3,15. Avec douceur et respect. Voilà comment les trois amis répondent à ceux qui leur sont hostiles ici. Mais au-delà de la forme, c'est le fond de leur réponse qui est extraordinaire. Ils disent, je paraphrase un peu, mais ils disent, si le Dieu que nous servons choisit de nous délivrer, il le fera, il en est capable, mais même s'il choisissait de ne pas le faire, nous ne servirions toujours pas tes dieux, ni n'adorerions la statue que tu as dressée. Ils disent en fait, est-ce que Dieu peut nous délivrer? Oui. Est-ce que Dieu veut nous délivrer? Oui. Est-ce que Dieu va nous délivrer? Peut-être, peut-être, mais même s'il ne le fait pas, ça n'a pas d'importance, nous ne nous prosternerons pas. Autrement dit, nous servons Dieu, disent-ils, et nous lui sommes fidèles pour lui-même et pas pour ce qu'il nous donne, non pas en fonction de s'il nous laisse ou non échapper à la fournaise. Est-ce que vous voyez comme leur foi est précise? Elle est précisément en Dieu. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire, et cela m'est sans doute arrivé à moi aussi personnellement, dans l'épreuve ou dans l'adversité, mais j'ai fait confiance à Dieu, j'ai mis ma foi dans le Seigneur, mais quand je lui ai demandé quelque chose de très important, il n'a pas répondu. Ou quand telle ou telle chose s'est produite dans ma vie, il n'a pas agi, il n'était pas là. Est-ce que c'est mettre sa foi en Dieu, ça? Non, c'est mettre sa foi dans mes projets personnels, en fait, et demander à Dieu de les réaliser, n'est-ce pas? J'ai mon projet, voilà comment les choses doivent se passer dans ma vie. Et si Dieu ne m'exauce pas ou n'intervient pas comme je le souhaite, ça me dédouane presque de lui obéir. Charles Spurgeon dit à l'inverse, « Notre tâche est de faire ce qui est juste, les conséquences appartiennent à Dieu. » Notre tâche est de faire ce qui est juste, les conséquences appartiennent à Dieu. Et c'est exactement l'attitude des trois amis ici. Les conséquences appartiennent à Dieu. Si notre Dieu veut nous délivrer, il le fera. Sinon, sache au roi que cela ne changera rien. Parce que nous servons Dieu et nous lui sommes fidèles pour lui-même, parce qu'il en est digne, et non pas en fonction de s'il nous laisse échapper ou non à la fournaise d'adversité. Pour donner cette réponse au roi, Shadrach, Meshach et Abednego devaient être convaincus d'une chose. Si Dieu veut nous sauver du feu, il peut le faire, mais quoi qu'il arrive, il nous sauvera toujours au travers du feu. Si Dieu veut nous sauver de la mort, il peut le faire, mais quoi qu'il arrive, il nous sauvera toujours au travers de la mort. Je lisais cette semaine le témoignage d'un pasteur au Sahel, pasteur Jérémy. Sa maison a été rasée par des extrémistes peuls. Et chaque jour, il vit sous la menace de nouvelles persécutions. Et voilà ce qu'il dit. « Lorsque nous allons nous coucher, dit-il, nous ne sommes jamais certains que nous serons en vie le lendemain. Mais même si nous mourons, nous sommes entre les mains de Dieu. » Et c'est vraiment cette même conviction qui devait animer les trois amis de Daniel. Si Dieu veut nous sauver de la mort, il peut le faire, mais quoi qu'il arrive, il nous sauvera toujours au travers de la mort. Et c'est pourquoi nous ne nous prosternerons pas. Même si nous devons mourir, même si nous mourons, nous sommes entre les mains de Dieu. Résultat, ils avaient déjà gagné. En fait, ces hommes avaient déjà gagné avant d'être jetés au feu. Ils étaient spirituellement ignifuges, résistants au feu, spirituellement, on peut dire, avant que Dieu ne les rende physiquement résistants au feu. Parce que, voyez-vous, quand vous mourrez dans le Seigneur, dans ses bras, il ne reste que de la joie, de la liberté, de de la délivrance. Nous sommes toujours en sécurité. Que peut-il nous arriver ? Ils avaient déjà gagné. Si vous voulez, quand on lit au verset 19 que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Nebuchadnezzar fait tout pour s'assurer de leur mort. Ici, il chauffe 7 fois plus la fournaise. Il choisit des soldats vigoureux et il jette les 3 amis tout habillés pour qu'ils prennent rapidement feu. Mais, verset 22, à cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ces versets nous rappellent les paroles de Jésus dans l'Évangile. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Ce qui m'amène au dernier point, la protection du Seigneur. Peut-être juste avant de passer au dernier point, j'aimerais soulever une question, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de lire ce passage et de se demander ce qu'on aurait fait, nous, à leur place. Je me souviens qu'en tant qu'enfant, à l'école du dimanche, quand on m'a raconté ces histoires plusieurs fois, je me demandais, et parfois je m'inquiétais de ce que ce serait d'être à leur place, ou à la place d'un pasteur Jérémie. Que ferais-je, moi, si j'étais confronté à un choix similaire entre renier Christ et mourir dans d'horribles souffrances. Je doutais, et dans un sens, je doute encore que je sois aussi courageux dans le service du Seigneur que ces jeunes hommes l'étaient. Et je pensais plutôt qu'à leur place, j'aurais cédé sous la pression. Avec le temps, toutefois, j'ai cessé de me poser ce genre de questions parce que j'ai pris conscience de 2 choses. Premièrement, Dieu n'a pas promis de nous donner la grâce pour faire face à toutes les situations désespérées dans lesquelles on s'imagine qu'on puisse se trouver. Non, il a promis de nous donner la grâce pour faire face aux situations désespérées dans lesquelles il permet que nous nous trouvions effectivement. Comme la manne dans le désert qui tombait pour subvenir aux besoins du jour même, la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin en fonction de nos besoins. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous voyez, j'en suis venu à voir que la même bataille se déroule en fait chaque jour dans mon cœur, de façon beaucoup plus subtile. Vais-je vivre pour le Seigneur, quoi qu'il arrive, dans ce monde qui le rejette ? Ou vais-je me prosterner devant la multitude d'idoles scintillantes que le monde me présente ? Est-ce que je suis prêt à me démarquer devant les hommes, ou est-ce que je vis ma foi en privé, mais qu'en public, je suis comme tout le monde ? Vous voyez, plutôt que de nous demander ce que nous aurions fait à la place de Shadrach, Meshach et Abednego, ou du pasteur Jérémie, examinons-nous. Pourquoi est-ce que je vis au jour le jour ? Qu'est-ce qui occupe mes pensées ? Devant quelles idoles culturelles me suis-je prosterné cette semaine par crainte d'être jeté dans une fournaise d'adversité ? Et apprenons à dire comme eux, si Dieu veut me délivrer de la fournaise, il le fera, mais même s'il ne le fait pas, je lui serai fidèle. Je lui serai fidèle. La pression du pluralisme, la précision de la foi. Voyons troisièmement la protection du Seigneur. Pour avoir refusé de tomber à genoux devant l'idole pour l'adorer, les 3 amis tombent liés dans la fournaise ardente, verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Et là, Nebuchadnezzar va avoir 2 grandes surprises. D'abord, il voit les 3 amis marcher au milieu du feu. La fournaise est si brûlante que les soldats qui les ont jetés dans la fournaise sont morts rien qu'en s'approchant d'elle. Et pourtant, les voilà qui marchent indemnes au milieu du feu. Comment est-ce possible ? Mais plus ahurissant encore, ils ne sont plus que 3. Un 4e homme marche avec eux. Et cet homme, eh bien, Nebuchadnezzar ne trouve presque pas les mots pour décrire cette 4e silhouette qu'il aperçoit dans le feu. L'aspect du quatrième, dit-il, ressemble à celui d'un fils des dieux. Un fils des dieux. Qu'apprenons-nous ici? Trois choses rapidement. Premièrement, dans la Bible, la fournaise est toujours une métaphore pour l'épreuve, pour l'adversité. Et donc la première chose que nous apprenons ici, et ailleurs dans la Bible, c'est que l'adversité est inévitable. Par exemple, 1 Pierre 4, 12 nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. » Vous voyez, Dieu n'a jamais promis en fait de nous délivrer de l'épreuve, même s'il en est capable. Au contraire, en fait, il nous a promis que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Et que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, 12. C'est inévitable. Nous ne devrions pas être surpris par l'incompréhension, le mépris ou la moquerie de notre entourage lorsque nous refusons de vivre selon les voies du monde. Et savez-vous pourquoi il est important de comprendre ça? C'est parce que vos attentes, quelles sont vos attentes? Ça change tout. Si la souffrance fait autant de ravages chez les chrétiens et nous laisse aussi désemparés, c'est essentiellement parce que nos attentes sont erronées. On demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Mais nous ne devrions pas être surpris. L'adversité est inévitable dans la vie du chrétien, premièrement. Deuxièmement, elle est indispensable. L'adversité agit sur votre caractère comme le feu agit sur l'or. Que fait le feu à l'or? Il le purifie. Et c'est la raison, ou l'une des raisons en tout cas, pour laquelle Dieu permet l'adversité dans nos vies, pour nous purifier, pour nous former, pour nous changer en or. 1 Pierre 1, verset 6 dit « C'est ce qui fait votre joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes, l'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ reviendra. » Vous voyez, l'adversité n'est pas inutile ni n'échappe au contrôle de Dieu. Mais dans sa providence, elle joue un rôle important dans notre vie. Elle est indispensable pour former notre caractère, en fait. Comment pourriez-vous apprendre la patience, par exemple, si vous n'étiez jamais poussé à bout? Comment pourriez-vous être compatissant avec ceux qui souffrent si tout allait toujours bien dans votre vie? Comment apprendrez-vous à pardonner si vous n'êtes jamais traité injustement? Etc., etc. L'adversité est inévitable, indispensable, mais troisièmement, et c'est peut-être le plus important, troisièmement, elle est accompagnée d'une promesse. Si nous devons passer par la fournaise d'adversité, nous pouvons être assurés d'une chose. Dieu sera avec nous, dans le feu. J'ai lu dans le dernier magazine Porte Ouverte le témoignage de Marduk et Ava, un couple d'Iraniens dont la foi est passée par le feu des persécutions. Ce sont bien sûr des prénoms d'emprunt, l'Iran étant le troisième pays le plus dangereux au monde pour les chrétiens. Et voilà leur histoire. Le mari, Marduk, a été emprisonné pendant plusieurs années à cause de sa foi. Parfois, hélas, on disait à sa femme, Ava, en arrivant à la prison, qu'elle ne pouvait pas rendre visite à son mari et qu'elle devait revenir le mois suivant, et puis le mois suivant, etc. Des mois de séparation, voilà ce qu'ils ont vécu. Enfin, son mari a été libéré. Mais, dit cette femme, Ava, sa détention a laissé des séquelles. Il a perdu une partie de lui-même en prison, où il a subi des tortures dont il ne veut parler à personne. Il est très difficile de le voir souffrir en silence. Elle et son mari ont tout perdu, leur maison, leurs biens, leurs sources de revenus. Mais voilà ce que cette femme, Ava, peut dire malgré tout aujourd'hui. J'étais vraiment frappé par ça en lisant leur témoignage. Je cite « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intime et très forte avec Dieu. C'était terrible et j'avais l'impression d'être dans un incendie, encerclé par les flammes. Mais avec le temps, j'ai appris que Dieu était là, avec moi, dans le feu. Cette sœur en Christ a fait l'expérience de ce que Dieu promet à chacun de ses enfants en Ésaïe 43, qu'on a lu tout à l'heure. « Sois sans crainte, dit l'Éternel, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. » Et c'est vraiment ce qu'on voit ici, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sortent finalement de la fournaise, verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux même de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. À nouveau, cela nous rappelle les paroles de Jésus dans l'Évangile. Quand il dit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas même un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. » Luc 21, verset 18. C'est pourquoi, comme le conclut Nebuchadnezzar au verset 29, nous pouvons dire « Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » J'aimerais conclure par une dernière question. Comment pouvez-vous sentir la présence de Dieu? Comment pouvez-vous connaître que Dieu est avec vous quand vous passez par la fournaise d'adversité? Réponse: vous sentirez que Dieu marche avec vous dans la fournaise, dans la mesure où vous savez qu'il a été jeté lui-même dans la fournaise suprême pour vous. Vous voyez, le Fils de Dieu est venu marcher parmi nous, dans ce monde. Mais lui, contrairement à vous et à moi, ne s'est pas prosterné devant la multitude d'idoles scintillantes que le monde nous présente. Au désert de la tentation, quand le diable, vous rappelez, lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire en disant « Je te donnerai tout ça si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi », que lui a répondu Jésus? Il lui a dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Dans l'adversité, Jésus, lui, est resté fidèle. Fidèle jusqu'au jardin de Gethsémané, où la lutte est devenue si intense, si agonisante, qu'il transpirait du sang. Jonathan Edwards décrit ce moment ainsi, je cite, « Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a vu de près cette fournaise de colère dans laquelle il serait bientôt jeté, qui était bien plus terrible que la fournaise ardente de Nebuchadnezzar. Il fut amené jusqu'à l'entrée de la fournaise pour qu'il regarde à l'intérieur, pour qu'il voie ces flammes dévastatrices et ressente l'intensité de sa chaleur. Ainsi, Jésus savait où il allait et ce qu'il s'apprêtait à souffrir. Et pourtant, il y est allé, sur la croix où il a souffert l'enfer que nous méritons à cause de nos compromis. Il a payé le prix de nos accommodements avec le monde, de notre tiédeur, pour que nous puissions passer au travers de la seule fournaise qui peut détruire le corps et l'âme, la fournaise de la colère, de la juste colère de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, dit Jésus. Craignez bien plutôt celui qui peut faire périr âme et corps dans la fournaise de l'enfer. Eh bien, Jésus s'est jeté lui-même dans la fournaise suprême, à notre place, pour nous délivrer. Quel est le Dieu qui peut délivrer comme lui? Et voyez ce que ça signifie, c'est que ce que vous traversez en ce moment, ou quoi que ce soit que vous ayez à traverser dans votre vie, s'il l'a traversé résolument pour vous, vous pourrez le traverser résolument pour lui. Et si vous avez cette confiance en lui, qu'il est avec vous, qu'il vous protège, cette fournaise ne fera que vous rendre meilleur. Il a souffert, Jésus a souffert, non pas pour que je ne souffre pas, mais pour que lorsque je souffre, je devienne comme lui. Et si vous voyez Jésus jeté dans la fournaise suprême par amour pour vous, vous sentirez alors sa présence avec vous, dans le feu. Et cela vous changera en or. Prenons courage. Alors, notre Dieu est capable de sauver ses fidèles de la fournaise de l'adversité. Amen.